Sourien est une émission entièrement consacrée à explorer le monde de F. Merjanov.
Une personne dont nous ne savons rien, ou presque.
Une vie réduite à quelques lignes, des lieux, Nice et la mer Noire, une date, 1970.
Et aussi quelques mots essentiels. Macédoine, nihilisme, apiculture et rien.
Mais rien de plus.
Si nous ne savons rien de son genre, nous pouvons affirmer son appartenance aux hominines.
C'est-à-dire à la vaste famille qui va de Lucy, l'Australopithèque, à Conan le barbare, en passant par Néandertal. L'humanité actuelle est ce qu'il en reste.
Dans cette émission, nous employons le terme hominine pour parler des êtres humains. Quel que soit leur genre ou leur sexe, il nous permet de contourner les contraintes grammaticales sur le masculin et le féminin. Nous précisons seulement lorsque cela est nécessaire.
Tous les mois, l'émission Tout sur Rien propose des biographies d'hominines inconnues ou des démystifications d'idoles, des explorations géographiques insolites ou des réalités sociales singulières.
Elle tisse des liens entre F. Merjanov et sa réalité avec une bonne dose de capillotraction. L'art de tirer par les cheveux.
Elle se nourrit de toute l'absurdité du monde pour mieux le vomir.
Elle réhabilite des hominines qui comptent pour rien dans l'histoire avec un grand H.
Elle reprend à son compte ces mots d'un célèbre écrivain inconnu.
Dans nos familles, on boit dans des verres à moutarde. Nous ne sommes pas des aristocrates, nous manquons d'élégance et notre race est incertaine. Mais nous n'oublions rien.
Tromelin. Petite île de sable et de corail dans l'océan Indien, encore aujourd'hui sous souveraineté française, où furent abandonnés des esclaves naufragés au XVIIIe siècle.
Voici l'histoire de l'île aux esclaves, un bout de terre français perdu dans l'océan Indien, un bout de rien, si ce n'est aujourd'hui un bout d'histoire, avec un grand H.
Géographie. L'île Tromelin, c'est une toute petite île corallienne de l'océan Indien. Complètement isolée, elle se situe à un peu plus de 500 km au nord des îles de la Réunion et de Maurice et à peu près autant à l'est de Madagascar. Elle mesure 1,7 km au plus long et 700 m au plus large. Sa superficie ne dépasse donc pas le kilomètre carré, ce qui équivaut à la surface du 2e arrondissement de Paris, du temple d'Angkor Wat ou de la commune de Montrésor dans l'Indre-et-Loire. Quasiment plate, Tromelin est recouverte de sable. Sa végétation ne se compose que de quelques buissons et arbustes, essentiellement des euphorbes au latex corrosif. L'île abrite une population conséquente de Bernard l'ermite ou pagure.
Un petit Bernard l'ermite sillonne la plage. Les crustacés de son espèce vivent dans des coquilles abandonnées. Ils doivent en changer à mesure qu'ils grandissent. Mais il est difficile d'en trouver une à la bonne taille. Les coquilles vides sont si rares sur cette plage que les Bernard l'ermite affluent dès qu'ils en repèrent une. Tous les arrivants sont à la recherche d'une coquille plus grande. Mais celle-ci est vraiment trop grande. Pourtant, les Bernard l'ermite commencent à se mesurer les uns aux autres. Ensuite, ils se mettent en file du plus grand au plus petit. Chacun va prendre possession de la coquille de celui de devant. Mais il manque le premier maillon de cette chaîne. Un Bernard l'ermite assez gros pour la grande coquille. Celui-ci fera l'affaire. Le gros Bernard l'ermite se place en tête de file. Dans un premier temps, les autres se dispersent. puis la queue se reforme. Le petit s'installe en dernière position. Le chef de file inspecte la nouvelle coquille de près avant de s'y installer. Alors, la valse des Bernard l'ermite commence. Chacun se précipite dans la coquille libérée par celui de devant. C'est au tour du petit. Mais une lutte s'engage pour la coquille qu'il convoitait. Sous ce fort soleil tropical, un Bernard l'ermite ne peut pas survivre longtemps sans coquille. Le petit s'est fait voler la place. Il va se réfugier dans la coquille abandonnée par son rival. Elle n'est pas plus grande que celle qu'il vient de quitter, et en plus, elle est trouée. Mais c'est toujours mieux que rien.
La faune vertébrée de l'île n'est composée que de tortues et d'oiseaux marins, comme le fou masqué. Selon la géologie, l'île s'est constituée par des amas de corail sur un relief sous-marin, peut-être d'origine volcanique. Elle est ceinturée par des récifs coralliens sur lesquels les vagues viennent se briser. Les vents sont permanents. Pendant 9 mois de l'année, et la région est régulièrement traversée par des cyclones. Les précipitations y sont pourtant faibles. La plus ancienne mention de l'île par des hominines daterait d'août 1722, lorsqu'un bateau de commerce français mouille au large. En l'absence d'une meilleure idée, il la dénomme l'île de sable. Les conditions climatiques et les risques encourus à cause des récifs dissuadent les marins d'y débarquer. Au XVIIIe siècle, la cartographie marine n'est pas chose précise. Les coordonnées de l'île sont modifiées en 1739, puis en 1752, lors de la parution d'une nouvelle cartographie marine. L'île s'est positionnée une quarantaine de kilomètres plus au nord. Malgré quelques essais, aucun navire n'a pourtant réussi à revenir dans les parages de l'île. L'absence de relief ne la rend pas facilement repérable par les navigateurs, d'autant plus que les passages de cyclones ou de tempêtes tropicales rasent parfois complètement la végétation. À cette époque, il est encore nécessaire pour les différentes compagnies commerciales, qu'elles soient françaises, anglaises ou hollandaises, de cartographier au mieux les océans afin de sécuriser les routes du commerce maritime. Les compagnies financent donc des expéditions, puis les impressions des nouvelles cartes. Les méthodes de calcul des coordonnées sont limitées à la latitude, nord-sud, alors que la longitude, est-ouest, se fait à l'estimation. Ainsi, en 1752, l'île de Sable est encore positionnée plus de 200 km à l'ouest de ses coordonnées réelles.
Dans mon île, ah, comme on est bien. Dans mon île, on ne fait jamais rien. On se dort au soleil qui nous caresse, et l'on paraisse sans songer à
main dans mon île. Ah, comme il fait doux, bien tranquille, près de ma doudou. Sous les grands coquetiers qui se balancent en silence, nous rêvons de nous dans mon île, un parfum se faufile dès la fin du jour. Elle accourt me tendant ses bras de cils, douce et fragile, dans ses plus beaux. Ses yeux brillent et ses cheveux bruns s'éparpillent sur le sable fin, et nous jouons au jeu d'Adam. Ils nous ont appris car mon île, c'est le paradis.
Hominisation. Après un voyage de 5 mois depuis le port de Bayonne, en France, le navire marchand L'Utile, affrété par la Compagnie française des Indes orientales, arrive à l'île Maurice, en avril 1761. Il y débarque sa marchandise, puis est envoyé à Madagascar pour en ramener 50 tonnes de riz et 150 zébus. En plus de cette cargaison classique, le capitaine de la Fargue, qui a déjà commandé à travers l'Atlantique plusieurs navires négriers, prend la décision de charger 160 personnes destinées à être vendues comme esclaves aux colons des Mascareignes. Passant outre l'interdiction du gouverneur qui estime qu'il y a suffisamment de bouches à nourrir dans les îles pour ne pas s'encombrer d'esclaves, le capitaine et les autres officiers agissent pour leur enrichissement personnel et probablement avec l'assentiment de la Compagnie des Indes. La plupart des hominines de la cargaison, hommes, femmes et enfants, viennent des hauts plateaux de l'Imerina, à Madagascar. Tous et toutes sont enfermés dans les cales du bateau, dont les portes sont clouées par crainte de révolte. Avant de regagner Maurice, le commandant Jean de la Fargue veut faire un détour par l'île Rodrigue, à près de 600 km à l'est de Maurice, pour y revendre sa marchandise humaine. Le commandant est soucieux d'éviter d'autres bateaux, anglais ou français, et fait le choix de contourner par le nord les routes commerciales classiques, en se basant sur la carte de 1739. Dans la nuit du 31 juillet 1761, l'Utile heurte par deux fois les récifs de l'île de Sable. Les vagues le fracassent lentement et violemment. L'équipage abandonne le bateau et les esclaves, toujours enfermés dans la cale. Lorsque le navire se rompt en deux, une partie d'entre eux réussit à s'en échapper, sans être nullement secourus par les membres de l'équipage. Avant d'expliquer comment ils tentent de sauver un des marins, Jean Canet, l'écrivain de bord, notera dans son journal.
J'avais attrapé une grande planche de sapin sur laquelle j'étais accroché. Il y avait quelque temps, un esclave noir se noyant voulut aussi s'en saisir, mais deux coups de pied que je lui donnais finirent de lui ôter ses forces.
18 personnes de l'équipage et environ 70 des esclavagisés meurent lors du naufrage. 123 survivent parmi les marins et un peu moins de 100 parmi les raflés de Madagascar. Les personnes survivantes sont toutes blessées. Au matin du 1er août, toutes et tous œuvrent à récupérer tout ce qui peut l'être. 22 barriques de farine, 8 de vin rouge, 1 de cidre, 1 baril d'huile, 1 de beurre, 200 litres de lard et de bœuf en morceaux, des bouteilles de vin et de l'eau de vie. La nourriture et la boisson sont rationnées pour l'équipage. Rien n'est donné aux autres survivants. La diminution rapide de vivres incite survivantes et survivants à se mettre à la recherche d'une source d'eau possible. Un puits de 5 mètres de profondeur est creusé pour y puiser deux jours plus tard une eau saumâtre, bien moins salée que l'eau de mer. Cette eau est distribuée à l'ensemble des naufragés, à l'équipage comme aux esclavagisés. Toutefois, 30 de ces derniers décèdent avant d'avoir pu y goûter. La survie et la ségrégation s'organisent. Tout ce qui peut être récupéré des restes de l'épave l'est. Bois, voiles, ustensiles et outils divers, armes et nourriture. Deux campements séparés sont installés, l'un avec l'équipage de l'ex-utile, l'autre avec celles et ceux qui ne sont pour eux que marchandises. Un four et une forge sont construits.
Le 9 août, un événement survint qui nous mit tous dans un émoi considérable. À 2 heures de l'après-midi, nous vîmes une embarcation à 2 mâts au large de l'île. Nous hissâmes des pavillons, fîmes le plus grand feu possible, brûlâmes même 2 barils de poudre dont la lumière devait être visible à 2 lieues, mais rien n'y fit. Le bâtiment vira de bord pour éviter l'île et reprendre la route des Indes, sans nous rendre aucun signe. Nous avait-il vu ? Ne voulait-il pas risquer un débarquement dangereux ? Allait-il chercher de l'aide pour revenir nous secourir ? Toutes ces questions nous affectèrent tous durablement. Et les jours qui suivirent cet espoir inattendu furent emplis de doutes.
À partir de l'épave, échouée à seulement 5-6 mètres de profondeur, les marins se lancent dans la construction d'un nouveau bateau, plus petit. Le 27 septembre 1761, 122 membres de l'équipage, c'est-à-dire tous les Blancs, embarquent à bord pour rejoindre Madagascar. Ils abandonnent une 60aine de personnes, avec 3 mois de vivres. Castellan Duvernay, le second, maître d'œuvre de la construction, promet de revenir les chercher.
L'angoisse se lisait clairement sur leur visage lorsqu'il fallut leur faire comprendre et admettre que malheureusement, par manque de matériaux, le radeau pouvait embarquer tout juste les 122 Blancs que nous étions, mais qu'une fois tous montés à bord, il n'y aurait plus la moindre place pour aucun d'entre eux. Ils entendirent la promesse qui leur fut faite que nous reviendrions les chercher dès que possible, mais je me souviens qu'ils ne feignirent même pas d'y croire. Leur abattement était pitoyable à cette nouvelle. Et il était évident que nous ne leur inspirions pas d'autre sentiment qu'une haine inextinguible.
Les 8 mois passés sur l'île de Sable sont documentés par le journal de bord, retrouvé en 2006. Jean Canet, l'écrivain de bord.
Ils ne sont pas estimables les secours que nous avons tirés depuis le premier moment jusqu'au dernier de ces malheureux esclaves que nous avons été obligés d'y abandonner à la honte de tous.
Le bateau, baptisé La Providence, arrive 4 jours plus tard à Madagascar. Le capitaine de la Fargue et 12 de rescapés mourront des suites de fièvre attrapées sur la côte nord-est malgache, alors surnommée le cimetière des Français. Malgré les demandes et les démarches effectuées par le second de l'utile, les autorités françaises ou la compagnie de commerce refusent d'affréter un bateau pour aller récupérer les naufragés malgaches. Le gouverneur des Îles-de-France et Bourbon s'y oppose farouchement. En 1769, la compagnie maritime française fait faillite et perd son monopole sur les îles des Mascareignes, la Réunion, Maurice et Rodrigue, qui passent sous l'autorité directe du pouvoir royal 3 ans plus tard.
A décalom, paypa. A décalom, paypa la manla.
A décalom, paypa. A décalom, paypa la manla.
A décalom, paypa. A décalom, paypa la manla.
A décalom, a décalom, paypa.
La Réunion, quand c'est un salé, toisaine rayonnée, la pâte marron.
Ici la Réunion, quand c'est un salé, toisaine rayonnée, la pâte marron.
Comme on a dit qu'à l'autre ville, comme on a dit qu'à l'autre ville, quand on est sur la terre bena, à ton lit, je suis bébé, je suis bébé. Comme on a dit qu'à l'autre ville, comme on a dit qu'à l'autre ville, quand on est sur la terre bena, à ton lit, je suis bébé, je suis bébé. Ici la Réunion,
la
mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la m
sablo-ilienne et sablo-ilien. Originaires des hauts plateaux luxuriants du nord de Madagascar, les néo-iliennes et néo-iliens, des femmes, des hommes et des enfants, ne sont pas accoutumés au mode de vie propre à un environnement marin. Sans aucune nouvelle de leur prétendant sauveur, et cette fois-ci sans ségrégation, la vie s'organise autour d'un petit village de huttes. Des huttes construites avec ce qui reste des restes du bien nommé l'utile. Ces premières constructions ne survivent pas au passage d'un cyclone, et les sablo-iliens sont contraints de reconstruire autrement leur habitat. Un petit hameau et un ensemble de plusieurs pièces est mis en place, avec des murs de 2 mètres de haut, faits de sable et de corail. Les malgaches ont alors dû s'affranchir d'un interdit culturel, les murs en dur étant, dans leur région d'origine, exclusivement réservés aux tombeaux. Une cuisine fonctionne grâce à un feu entretenu en gérant au mieux le stock de bois, limité principalement au reste de l'épave. Une exploitation optimisée des maigres ressources locales est imaginée afin de réduire l'aspect dévastateur des premiers mois de la présence des hominines. Les ustensiles sont réparés et entretenus avec ingéniosité. D'autres objets sont détournés pour faire des outils, des hameçons par exemple, mais aussi des objets à la productivité moins évidente comme des chaînettes ou des bracelets. Les oiseaux et les tortues, ainsi que leurs œufs, constituent la source principale de leur nourriture. Les ailes des oiseaux sont utilisées pour confectionner des couvertures ou des habits. Malgré des eaux poissonneuses, la pêche reste une activité dangereuse. Des chemins sont entretenus entre les différentes parties de l'île où des activités sont implantées. Habitations, forges, puits et cimetières. Vers 1764, 18 sablo-iliens et sablo-iliennes tentent de fuir l'île. Ils construisent un radeau dont la voile est faite de plumes d'oiseaux et prennent la mer. Personne n'a plus entendu parler d'eux.
La 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 le 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 la la o la 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 le 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 la la lo mo ti da ka mo ma mo ma je bo a si je so ti ma ma ye pou ma ma za mi je si ma ma za mi je pa la fo gan se la cre ti bien ti da mo mo ba ti ko na me ne la 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 le 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 la la le la 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 le le lo Moti la ka mo mama mama se boire assise so ti mal maye pou mal mal amuse si mal mal amuse pa la fréquence la crédit bien ti d'amour mo parti qu'on a mené la 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 le 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 la la oh la 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 oh.
En 1773, un bateau français arrive au large de l'île de Sable. Il signale la présence d'hominines aux autorités mais ne parvient pas à débarquer. L'année suivante, un nouveau bateau parvient jusqu'à l'île et met à la mer une chaloupe. Les conditions météorologiques sont difficiles et seul un marin, blessé, parvient de justesse à rejoindre la terre ferme. Dans l'impossibilité de récupérer les personnes à terre, le bateau décide de faire demi-tour. Le marin rescapé entreprend, avec d'autres, de se lancer dans la construction d'un nouveau radeau. En 1775, 3 femmes et 4 hommes, dont le marin, montent sur leur embarcation de fortune. Plus de nouvelles. Plusieurs tentatives de rejoindre l'île sont menées par des navires français, mais sans succès. Le 29 novembre 1776, un bateau français, mené par le commandant Tromelin, parvient enfin à faire accoster une petite embarcation pour récupérer les sablo-iliens et sablo-iliennes. Seules 7 femmes et un enfant de 8 mois sont encore vivants. Ramenées à Maurice, elles sont déclarées libres. Toutes refusent d'être envoyées vers Madagascar. L'enfant, rebaptisé Jacques Moïse, sa mère Simiavu, rebaptisée Ève, et sa grand-mère, rebaptisée Dauphine, du nom du navire venu les secourir, sont recueillis par l'intendant des îles Mascareignes.
Leur sort m'a si fort intéressé que j'ai offert à cette mère, sa fille et son enfant l'asile de ma propre maison. Ils l'ont accepté avec joie. Et j'en ai une grande de les faire soigner et de les rendre heureux.
Le nom du commandant Tromelin est dorénavant utilisé pour nommer l'île de Sable. Vestiges. Au cours du 19e siècle, plusieurs bateaux se sont rendus dans les alentours de l'île. Les descriptions parlent de restes de construction encore visibles et du cimetière. L'île a abrité à plusieurs reprises et pour de courtes périodes les rescapés de naufrages sur ses récifs. Bien que les murs de corail construits par les naufragés de Tromelin ont en partie été détruits pour servir aux fondations de la station météo de l'île, quatre expéditions archéologiques entre 2006 et 2013 ont permis de mettre à jour de nombreux outils et ustensiles, des ruines d'habitation et de squelettes d'hominines, permettant de mieux comprendre la façon de survivre mise en place pendant ces 15 années.
Chaque année, au 1er août, anniversaire de notre naufrage, j'abattrai un cormoran, je le rôtirai et je le mangerai. Un cormoran ou un oiseau de mer d'une espèce qui vit à l'île de Sable. C'est très mauvais, les oiseaux de mer. Je penserai à ces femmes et à ces hommes qui, pendant 15 ans, ne se sont nourris que de cette chair puante. Jean Canet, à Port-Louis de l'île de France, le 16 décembre 1776.
Un autre naufrage de bateau négrier fait écho à l'histoire de l'Utile. En 1760, un bateau portugais chargé d'esclaves s'échoue sur l'atoll d'Astov, au nord de Madagascar. D'environ 5 km², avec une faune et une flore plus riches que sur Tromelin. Abandonnés par les marins, les naufragés survivent 36 ans sur l'île avant d'être secourus par un navire britannique.
Yeah, Dub J. La peau coulée la nuit, je t'appelle moi esclave. Mon motre no la ride, donc mon vin n'est épave. À cause me la peau noire, je t'appelle moi sauvage. À cause mon chination, mon vin infréquentable. Trop beaucoup injustice, trop beaucoup préjudice. Si moi ouvert, me la guise, je pouvais me négatif. Crier Black Lives Matter, pourtant un hypocrite. Un sable de me la métier, cap à faire un homicide. Mais nous travaillons, nous travaillons jusqu'à un mot. On bobine nous l'esprit pour faire nous croire qui c'est nous saut. Un type avec les restes, c'est un grand pas avec l'amour. C'est vie parole bon Dieu pour montrer nous blanc qui plus faux. Moi pas raciste, moi. Moi crois qu'il tout couleur égale. Mais si mon pépé brille, moi pour faire ce qui est illégal. Un type noir dans un bureau, je trouve ça pas normal. Mes couleurs me la pose, c'est un site matrimonial. Pas content nous couler, mais je capte nos battements. Zamet un trou zézik ou mat connaît l'itchi blanc. A cause de ces paroles, je peux penser mot insolent. Les temps une sens, mais ce qui est n'a un sens, man, non. Mentalité encore le même, à Maurice à l'étranger, et n'a le même problème. T'es pas une supporter en disant yes weekend. C'est pas contre raciste, c'est une devise américaine. Appelle-moi négro, vous êtes capable de mettre moi en bas. Pourtant aujourd'hui je peine à droit c'est ville moniga. Combien temps ça pour aller, c'est pas le manier sistra. Combien frère l'olari, combien qui n'est plus là. Ouvert la porte Wakanda, ici c'est mon kingdom. Mon real nigga, mon pouvin king du nigadum. Mon légende chinois, tout pas Kobe, Michael Jackson. Nous bâtir un empire, The Perrault prend le trône. Brutalisé par le torture, l'homme qui coulait, une coule à l'intérieur. Un sable de zot, mais c'est pour travail dur. Couler la souffrance, c'est ça qui nous coulait. Trace de fête, il laisse une trace, l'homme ou l'écho. Me trouve somme noir, père, pour sortir des hauts. Me trouve femme noire, croix, qui zot pas de lit. Mais dans de l'esprit, black is beauty. Beaucoup pour écouter ça, pour dire, me pé dramatiser. Comme mot ouvert, me la bousser pour passer, mais ça, c'est la vérité. Me couler, me la peau, c'est ça qui me fiété. Du sang qui coule dans me la veine, c'est même du sang qui finit couler. Couler pour construire, couler pour obéir. À la fin nous finit pareil, nous tout vient la poussière. L'air nous respirer, nous tout respire même l'air. Ici peine aucun race inférieur ou supérieur.
Yeah yeah. Non non, peine aucun race inférieur. Peine aucun race supérieur. Non, peine tout ça là. Nous tout nous pareil. Des lamés, des lipiers, un aîné, des ligiers, un abousse, nous pareil. Nous restons même la terre. Nous respirons même l'air, peine en est différent.
Île éparse. Rattachée à la Réunion en 1814, l'île de Tromelin reste inhabitée. De nouvelles coordonnées cartographiques sont définies plus précisément en 1830 d'abord, puis de nouveau en 1955. L'île est incluse en 1960 dans la zone française des îles éparses de l'océan Indien, à plus de 1700 km de Tromelin. Les îles éparses sont un ensemble de quatre îles coralliennes, Europa, Bassas da India, Chuan de Nova et les îles Glorieuses, qui se situent près de Madagascar. Les indépendances de Madagascar et de Maurice poussent la France à réaffirmer son autorité dans une région stratégique, riche en poissons et susceptible d'accueillir des essais nucléaires. Dès 1950, la France y construit des stations météorologiques et des pistes d'atterrissage. Depuis 1973, trois des îles sont habitées en permanence par une rotation de militaires et ponctuellement par des météorologistes et des scientifiques. La superficie totale des îles éparses n'excède pas 44 km². Certaines sont partiellement noyées lors de fortes marées. Mais cela permet à la France de s'accaparer une zone économique exclusive, ZEE pour les intimes, de 640 400 km² dans laquelle elle peut piller les ressources maritimes librement. En parallèle, la France déclare réserve naturelle la zone des îles éparses. En 2005, puis en 2007, des réformes administratives rattachent les îles éparses aux Terres australes et antarctiques françaises, ou TAAF pour les adeptes d'acronymes, auxquels appartiennent déjà l'archipel Crozet, les îles Kerguelen, les îles Saint-Paul et Amsterdam et la Terre Adélie, situées à environ 4000 km plus au sud. L'ensemble du territoire des terres australes et antarctiques françaises porte à 2 274 277 km², la fameuse ZEE, grâce à ses confettis, ce qui n'est pas rien si l'on compare aux 334 604 km² de la métropole. Les autres territoires d'outre-mer représentent plus de 7,5 millions de km².
Moi, monsieur, j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie, au temps béni des colonies. Les guerriers m'appelaient grand chef, au temps glorieux de la OEF. J'avais des ficelles au képi, au temps béni des colonies.
On pense encore à toi, Rouana. Dis-nous ce que t'as pas, on en a.
Y'a pas de café, pas de coton, pas d'essence en France, mais des idées, ça on en a, nous, on pense.
Les terres australes et antarctiques françaises ne sont ni une région, ni un département, ni un territoire d'outre-mer. Elles ne sont pas membres de l'Union européenne et non contraintes par sa législation. Leur statut particulier permet par exemple à la France d'offrir depuis 1986 un pavillon de complaisance, dit pavillon Kerguelen, qui autorise des armateurs de commerce ou de plaisance à déroger au droit du travail français dans les terres australes. Pour la plus grande joie des philatélistes, les terres australes et antarctiques françaises peuvent aussi émettre des séries spéciales consacrées à la faune et la flore locale, une des prérogatives également dévolues au territoire d'outre-mer. Contestation. Madagascar revendique trois des îles éparses, Europa, Bassas da India et Juan de Nova. Les Comores revendiquent les îles Gorlieuses et le banc du geyser. Et Maurice réclame la souveraineté sur Tromelin. Les hypothétiques réserves sous-marines en gaz et en pétrole ne font que tendre un peu plus les relations.
Merci madame, la parole est à monsieur Philippe Folliot.
Monsieur le Premier ministre, la République française est-elle toujours une et indivisible ? On pourra singulièrement en douter si mercredi 18 janvier prochain, le projet de traité de ratification du cogestion de l'île de Tromelin et ses espaces maritimes environnants, signé en catimini en 2010, est voté. Cette île, située dans l'océan Indien, à l'est de Madagascar et au nord de la Réunion, génère une zone économique exclusive de 280 000 km², presque autant que l'Hexagone, 345 000 km², Corse comprise. Ce texte ne doit pas être ratifié. Il est scandaleux, car il cède, de fait, une partie de notre domaine maritime sans aucune contrepartie. Il est dangereux, car il ne met pas fin aux revendications de l'île Maurice. Il est unilatéral et déséquilibré, car il ne prévoit aucune forme de réciprocité ou contrepartie, la France étant perdante sur tous les plans. Le plus grave dans tout cela, c'est l'effet domino que cela pourrait entraîner et le début du détricotage de notre domaine maritime, le deuxième au monde avec 11 millions de kilomètres carrés. Cela concerne des revendications au grand jour de Madagascar, sur les îles éparses en général et en particulier sur Juan de Nova, au cœur du détroit de Mozambique qui regorge d'hydrocarbures avec toutes les convoitises que cela suscite. Monsieur le Premier ministre, au-delà des mots, sur notre puissance maritime, il faut des actes. Vous devez, comme votre prédécesseur, avoir la sagesse de retirer le projet de ratification de ce traité de l'ordre du jour de l'Assemblée.
La parole est à monsieur Mathias Fekel, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger.
Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Philippe Folliot. Je vous remercie pour votre question sur un accord extrêmement important, bilatéral, conclu entre la France et la République de Maurice et signé au mois de juin 2010. Comme vous le savez, il vise à engager une coopération mutuellement bénéfique avec un pays voisin avec lequel nous entretenons par ailleurs des relations d'amitié et de partenariat. Cette coopération porte sur quatre domaines bien précis. L'environnement, la pêche, la météorologie et l'archéologie. Il ne saurait bien sûr être question, et c'était l'un des cœurs de votre question, de mettre en cause la souveraineté de la France dans la région. Et en particulier sur Tromelin. Rien dans la mise en œuvre de cet accord ne peut constituer une base de contestation de notre souveraineté. Toutes les garanties juridiques ont été prises et en particulier l'article 2 de l'accord qui est soumis à ratification est précis à ce sujet et ne laisse pas de marge d'interprétation. Je veux vous rappeler qu'en décembre 2012, le Sénat avait approuvé ce texte et qu'en commission des affaires étrangères, ici à l'Assemblée nationale, vos collègues l'ont voté à l'unanimité. Cet accord a donné lieu à beaucoup d'interprétations, mais ne laissons pas répandre l'idée que la France puisse, de quelque manière que ce soit, abandonner ses territoires et renoncer à sa souveraineté. L'accord préserve nos intérêts, renforce l'autorité et l'influence de notre pays dans l'océan Indien, et nous souhaitons une relation apaisée avec la République de Maurice, qui est elle aussi indispensable pour garantir le développement économique de la région auquel nous sommes tous ici très attachés.
Cas isolé. La France n'est pas l'unique pays à bénéficier de confettis planétaires permettant d'étendre les zones d'influence politique et économique. Le Royaume-Uni, autre ancienne puissance maritime et coloniale, multiplie par 9 sa zone économique exclusive grâce à ses territoires ultramarins. Les possessions britanniques dans l'océan Indien se limitent à l'archipel des Chagos, situé au nord-est de l'île Maurice, avec ses 60 km carrés de terre émergée qui représente une ZEE de plus de 600 000 km carrés. Presque autant que le seul Royaume-Uni. Avec les seuls Madère et Açores au large de l'Afrique du Nord-Ouest, le Portugal multiplie par 6 l'étendue de sa ZEE. Les Pays-Bas ne disposent plus que de 6 possessions iliennes dans les Caraïbes. La présence de la France à travers tous les océans du globe, par le jeu de ses possessions territoriales et coloniales, lui permet, comme on dit dans le langage diplomatique, de taper l'incruste dans moult organismes internationaux africains, asiatiques, pacifiques ou océaniens. Nombreux sont les territoires ultramarins inhabités à travers le monde, dont la souveraineté est revendiquée par plusieurs pays, parfois à la limite de la guerre, à l'exemple de l'archipel des Spratleys en mer de Chine méridionale. D'autres pays ne possèdent tout simplement pas de zone économique exclusive, car ils n'ont aucun accès maritime direct ou ultramarin, ce qui est le cas, par exemple, de la Macédoine.
En rien. Expliqué par une passion enfantine pour la philatélie, la connaissance de l'île de Tromelin par F. Merjanov n'est pas chose aisée. En effet, les collections enfantines sont souvent incomplètes, et il se peut alors que le nom de Tromelin n'ait jamais sonné à son oreille. Dans le cas contraire, la raison peut être une spécialisation dans les îles de rien, inhabitées par des hominines. Un rêve d'enfant pour les lieux isolés, l'aventure et les récits de voyage dans un imaginaire confus, peuplé de Sam le pirate, du trésor de Robinson Crusoe et de l'île mystérieuse du commandant Cousteau. Un besoin pubère de se créer un refuge très éloigné des autres hominines pour ne plus avoir enfin à répéter « Vas-y, lâche-moi ».
Telle a vu la lumière, Maya. T'es loin ni pour garder. T'es loin vite de rouver, Maya. T'es loin vite de rentrer. N'a pas hâte qu'on ait toute histoire. Mais qu'est-ce que ça coulait? La diarousis, la pas grand chose, mon noir. Vraiment j'ai bouché. Et la découcoma la rara le malou y'a capoussé. Ça l'arrive tout seul. Ça t'éta ou blasé. Rara le malou y'a capoussé. Qu'écoute ça qui sort. Tout la mène à l'île devant nous port. Rara le malou y'a capoussé. Ça t'ira là ou loin, là où ça descend ou bien. Ah.
la mano y el capuzzi, ça dita ou le temps, mais tel y arrive, tel y ça va. Elle t'est fini manger maille, t'es loin rentre pour aller. T'es loin sort dans la case maille, t'es la nuit la tombée. Et bébé, un diable pour plus ou d'or pas là. La couler et la d'un coup comme la reine est mal ou y'a un caboussé. Ça l'arrive tout seul, ça t'éda ou la zèle. Reine est mal ou y'a un caboussé. Quel côté que ça a été sorte, que la mène à l'île devant nous pas. Ça dira là nous loin, là où ça ne te sent à nous bien. Râle mal ou y'a un capoussé, ça t'éta nous le temps. Mais tel y arrive, tel y ça va. Mais tel y arrive, tel y ça va.
L'été que j'avais tant attendu est arrivé. Maintenant, il est presque fini. En septembre, je retourne à l'école. Grand-père m'a dit que si je veux, je peux arrêter la comptabilité. Il me payera le conservatoire avec sa retraite. Mais j'en ai plus rien à foutre de rien. J'en ai plus rien à foutre de rien.
J'en ai plus rien à foutre de rien.
J'en ai plus rien à foutre de rien.
De rien.
De rien.
De rien.
De rien.
J'ai demandé à Franz un de ses t-shirts comme souvenir. Celui avec gribouillé au stylo bille, je vous et tous. Je le porte tout le temps. Le rendez-vous avec Margarita, j'y suis pas allé. J'écoute de la musique. Le jour, la nuit. Tous les jours, toutes les nuits.
Ils ont aussi abattu mon chêne. Il était sur le chemin de la Nationale. Je regarde le t-shirt que je porte. Je vous hais tous, c'est écrit.
Je vous hais tous.
Je vous hais tous.
Je vous hais tous.
Je vous hais tous.
C'est écrit.
Je vous hais tous.
Je vous hais tous.
Tous.
Je vous hais tous. Tous. Je vous hais tous.
Guisepe Culicha, le pays des merveilles. Cité à l'entrée à Gingra dans Un adacte de rien.
Sur Rien est diffusé le 4e mardi du mois à 14h sur Radio Escapade 104.1, 102.0 ou 103.3. Elle est rediffusée le samedi suivant à 9h30.